Donc je vous remercie d'être là aujourd'hui, vu les conditions pour arriver jusqu'ici. Vraiment, donc ce focus vaccination clôt la série des focus que nous organisons sur toute l'année, chaque mois. Michel l'a rappelé en introduction. Et donc, je voulais juste, pour introduire cette réunion, rappeler d'où vient la vaccination. Parce que je trouve que c'est intéressant de se le rappeler. Alors, c'est un bouquin que j'ai retrouvé dans ma... C'était les nouveautés dans l'évaluation clinique des vaccins. C'est M. Rouvex qui avait fait ce bouquin. Et il y a eu une introduction sur des anciens ou futurs vaccins fait par Claude Leclerc de l'unité de biologie de l'Institut Pasteur à Paris. Et il commence son propos comme celui-là. Le concept de vaccination est très certainement né en Chine, il y a environ un millénaire. Il semble que les Chinois aient très tôt observé qu'il existait des variations importantes dans la sévérité des épidémies de variole et que les individus qui avaient survécu à une première attaque de la variole devenaient résistants à une seconde attaque de cette maladie. Ces observations seront à la base des techniques chinoises de variolisation qui consistait à inoculer aux enfants le contenu de pustules provenant notamment de malades ayant subi des formes peu sévères de variole. C'est Édouard Jenner qui allait être l'acteur principal de la deuxième étape de l'histoire des vaccins, sans nul doute inspiré par la variolisation. Jenner allait baser ses travaux sur l'observation qu'une maladie de la vache, la vaccine, offre beaucoup de ressemblances avec la variole humaine. De plus, il était connu que les fermières en contact fréquent avec des vaches infectées sont résistantes à la variole humaine. En 1796, Jenner inocula donc à un jeune garçon avec le liquide d'une pustule vaccinale. Ce jeune patient résista ensuite parfaitement bien à l'injection du virus de la variole. Expérience certes démonstrative, mais qui paraîtrait bien risqué aujourd'hui. Cette expérience fut certainement essentielle sur le plan théorique, car elle introduisit à la fois l'idée de protection croisée, mais démontrait aussi qu'il est possible de vacciner par un micro-organisme de virulence atténuée, ne provoquant que peu ou pas de symptômes cliniques. Jenner n'exploita cependant pas plus avant ses résultats, et il fallut attendre Louis Pasteur pour que soient mis au point, presque un siècle plus tard, des vaccins expérimentaux basés sur une atténuation provoquée de micro-organismes. Cette technique d'atténuation expérimentale allait permettre la mise au point du vaccin contre la rage et dans les années qui suivirent, de nombreux autres vaccins, comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, le BCG, la fièvre jaune, and so on. Donc voilà, je voulais rappeler d'où venait l'histoire de la vaccination, qui est quand même formidable. Et je voulais en reparler pour introduire le propos, en fait, des rappels vaccinaux ou de la primo-vaccination chez les adolescents et chez l'adulte fragile. Donc, pour entamer cette réunion, nous allons commencer par M. Assatiani, si vous voulez bien, pour parler méningocoque B. Puisque c'est un sujet que M. Daniel Floret n'allait pas parler, dont il n'allait pas parler. Donc, M. Assatiani, je vous laisse la parole pour introduire ce sujet de la méningite méningocoxique, qui est quand même un sujet très important.
Oui, bonjour, merci de votre invitation. Oui, j'ai souhaité parler du vaccin contre le méningocoque B parce qu'il a un petit peu un statut particulier parmi les vaccins et il pose un problème pour le médecin qui doit prescrire ce vaccin. Alors, ma courte intervention va être de se dérouler de la façon suivante. Deux petites vignettes cliniques pour montrer la gravité de cette maladie provoquée, maladie invasive par le méningocoque B. Et avec parfois le diagnostic difficile, au moins au début, de cette maladie, ce qui fait que ce diagnostic est parfois fait avec retard. Deuxièmement, quelques chiffres sur les infections à méningocoque B et le vaccin. Et ensuite, les questions qui se posent lorsqu'on doit vacciner. Alors voilà, premier enfant, il a 10 ans. Le 24 janvier, il a 38. Le lendemain, il se plaint des douleurs au niveau des jambes. Il vomit à plusieurs reprises. Il est fatigué. Et bon, les parents surveillent, ils sont pas très actifs. Et le lendemain, à ce moment-là, ça devient plus compliqué, puisqu'il a des céphalées, il est même un peu somnolent. Ils vont voir le médecin de la région qui trouve que l'enfant va vraiment pas bien. Il le dirige à l'hôpital où on constate une raideur de la nuque et il va y avoir un purpura qui va apparaître. La ponction retrouve un méningocoque B, la ponction lombaire, et cet enfant va être traité immédiatement par la ceftriaxone et il va être transféré par le SAMU en réa et où il va guérir sans séquelles, ce qui est une évolution favorable. Ce n'est pas la même évolution de cet enfant-là. Le 22 août, il a de la fièvre. Il a une symptomatologie digestive qui va faire un peu errer le diagnostic et retarder la consultation médicale. Il est fatigué, il vomit, il n'a pas très faim. En début d'après-midi, les signes digestifs se précisent. Il a une diarrhée, des douleurs abdominales. Mais il y a quand même un certain degré de confusion qui apparaît. Et les parents donnent, pour soulager cet enfant, du paracétamol. Mais la nuit va très mal se passer. À 2 heures du matin, cet enfant se réveille. Il a très mal dans les jambes. Il est gêné pour respirer. Et il a une éruption qui va se confirmer être un purpura. Les parents le prennent sous le bras et l'emmènent aux urgences. On est en province. À 3h30, ils arrivent à l'hôpital. Là, on voit que la situation hémodynamique est compliquée, avec une tension qui est basse, une tachycardie. Il est confus. Il est pâle, il a des marbrures, ce qui confirme la mauvaise hémodynamique, et on retrouve également une raideur ménagée et effectivement le purpura. Dans la demi-heure qui va suivre, il va recevoir son antibiothérapie et il va être rempli à 3 reprises. Et malgré le transfert par le SAMU dans un service de réanimation, cet enfant va décéder d'une fulminance à méningocoque B. Et j'en profite pour rappeler que c'est une urgence médicale et que c'est le type même de l'urgence médicale et que tout médecin doit être pouvoir, dans son cabinet ou lors d'une visite à domicile, être amené à faire une injection de ceftriaxone s'il y a la moindre suspicion de purpura fulminans. Alors ces infections invasives à méningocoque sont rares. Je vous donne les chiffres de 2017. On en a dénombré 546, mais elles sont, vous l'avez vu, graves, avec un pourcentage de décès qui est de 10% et un taux de séquelles qui est évalué entre 10 et 20%. Le méningocoque B est le sérotype le plus fréquent, puisqu'il y a 229 cas qui ont été répertoriés. Et contre le méningocoque B, il y a un vaccin qui n'est pas remboursé, sauf dans des situations particulières que l'on va revoir tout à l'heure. Le deuxième sérotype le plus important est le sérotype C. Il fait partie des vaccins qui sont obligatoires pour les nourrissons depuis janvier 2018. Et il y a un moindre degré de fréquence, les sérotypes W et Y, pour lesquels il y a, comme pour le méningocoque B, un vaccin qui n'est pas remboursé. Alors, comme l'ont montré des campagnes de vaccination au Royaume-Uni et au Canada, ce vaccin contre le méningocoque B est actif, il est efficace, il a une tolérance qui est tout à fait correcte. Mais le Haut Conseil pour la santé publique actuellement a statué sur le non-remboursement de ce vaccin, sauf un terrain particulier qui est très restrictif, mais qui est quand même utile, c'est les asplénies fonctionnelles telles que la drépanocytose ou anatomique, certains déficits en complément et des greffes de moelle osseuse. Alors, 3 questions se posent lors de la prescription de ce médicament, de ce vaccin qui n'est pas remboursé. Faut-il le prescrire ? Je pense que oui, parce que nous avons un devoir d'information vis-à-vis des patients. Quand ? Alors, l'idéal aurait été, pour les parents peut-être, aurait été de le mettre la deuxième année, parce que la première année, elle est très prise au niveau calendrier vaccinal. Mais L'ennui, c'est que le méningocoque B frappe dès la première année avec un premier pic de fréquence qui est lors de la première année. Donc c'est tout à fait illogique d'attendre la deuxième année. Donc il faudrait le faire la première année. Alors peut-être au troisième mois, avec la première injection au troisième mois, la deuxième injection au cinquième ou sixième mois, ce serait une façon de les prévenir, de prévenir cette infection chez les jeunes nourrissons. Quand on a laissé passer cet âge-là, on peut faire des rattrapages vaccinaux plus tard chez les enfants, notamment en sachant qu'il y a un deuxième pic de fréquence au niveau de l'adolescence. Alors, ce qui pose un problème, c'est le non-remboursement de ce vaccin. Alors, soit on écrit sur l'ordonnance non remboursé, NR, et à ce moment-là, le vaccin reste à la charge des parents. C'est deux ou trois injections pour que la vaccine, selon l'âge de l'enfant, pour que la vaccination soit complète, ce qui fait de 160 à 250 euros par enfant, ce qui n'est pas un coût tout à fait négligeable. Alors si les parents, de temps en temps, des conditions financières, matérielles de la famille font que ce vaccin n'est pas possible, ce qui fait une certaine discrimination. D'autre part, si les parents jugent que c'est un vaccin qui ne sert pas à grand-chose et qu'ils reculent devant la dépense, imaginez la situation dans laquelle ils vont se trouver si jamais, par malheur, cet enfant, plus tard, fait ce genre d'infection. Alors, ne rien écrire, ça veut dire que les parents risquent d'être remboursés. Ils sont remboursés en pratique, mais c'est une prescription hors AMM. Et il y a une caisse d'assurance maladie qui a demandé à des pédiatres de rembourser tous ces vaccins qui avaient été prescrits sans que ce soit marqué non remboursable. Et est-ce qu'on doit décider en fonction des revenus des parents? Est-ce que je vous prescris le vaccin ou je ne vous le prescris pas? Mais c'est pas notre rôle de juger, de prescrire en fonction des situations financières des parents. Voilà, donc je voulais vous parler de cette infection qui est une infection rare, mais vous l'avez vu, une infection sévère, de ce vaccin qui n'est pas remboursé hors cas très particulier et qui en plus est onéreux, et à chaque fois, ça met le médecin dans une situation difficile au moment de cette prescription.
Merci beaucoup, monsieur Assatiani. Donc, j'ai omis de dire que vous étiez pédiatre, mais ça va de soi, et que vous exercez donc à Issy-les-Moulineaux, dans la région parisienne. Donc, juste une question peut-être qui peut apparaître naïve. Pourquoi pourrions-nous pas faire un vaccin qui associerait de valence celui du C et celui du B?
Je pense qu'il faut demander à l'industrie du médicament ou à Madame Olivier qui est à votre gauche.
Oui. Il y a des travaux en cours sur un vaccin pentavalent qui serait A, B, C, W et Y. Et donc, c'est quelque chose qui est en train d'être réfléchi. Et comme vous le savez, la structure des vaccins A, C, W, Y n'est absolument pas la même que la structure des vaccins B, qui sont, eux, des vaccins protéiques, alors que les autres sont des polysaccharides conjugués. Donc ça demande quand même une recherche industrielle pour s'assurer de la stabilité, de la persistance, de l'efficacité, de, bien entendu, de la tolérance. Enfin, c'est un travail qui est en cours.
Merci beaucoup, Madame Catherine Veil-Olivier. Donc, vous êtes professeure honoraire de pédiatrie et membre d'InfoVac. Donc, je salue l'arrivée de Monsieur Daniel Floré de la Haute Autorité de Santé, qui est vice-président de la Commission technique des vaccinations. Merci mille fois d'être là, parce que je sais les difficultés qu'il y a en ce moment pour venir à Paris sur des événements. Donc, je vous remercie. Et en revenir, exactement. Et donc, en fait, je vais vous passer la parole parce que nous devions commencer par vous. J'ai demandé à M. Assatiani d'introduire aussi cette réunion par le méningo B. Et vous souhaitiez intervenir sur trois plans. Qui est concerné pour quelle vaccination? Pour la vaccination, la politique vaccinale de l'adolescent et de l'adulte fragile. Que sait-on des incidences des maladies à prévention vaccinale de ces populations et que sait-on des couvertures vaccinales dans ces populations et également les enjeux en fait liés à la vaccination. Donc je vais vous passer la parole et merci encore d'être là.
Merci, c'est en effet pas facile d'arriver. J'espère que je vais pouvoir repartir. Donc, effectivement, parler de la politique vaccinale de l'adolescent, alors 14-19 ans et de l'adulte fragile. 14-19 ans, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de rendez-vous vaccinal dans cette tranche d'âge et qu'en fait, le seul rendez-vous vaccinal qui existe concernant l'adolescent, il est entre 11-13 ans et ça concerne le rappel diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. Ça concerne la vaccination papillomavirus pour les filles et bientôt également pour les garçons. Et puis, ça concerne également les éventuels rattrapages pour le vaccin ROR, pour toute personne née après 1980, pour l'hépatite B, puisque un rattrapage est prévu pour les enfants et les adolescents jusqu'à l'âge de 15 ans révolu, et puis également rattrapage HPV pour les filles qui n'auraient pas été vaccinées entre 11 et 15 ans comme c'est recommandé et qui peuvent encore se faire vacciner jusqu'à l'âge de 19 ans révolu. Donc ça, c'est la problématique des adolescents. Maintenant, qu'en est-il des adultes fragiles ? Bon, les adultes fragiles, ce sont, si on excepte les personnes âgées, qui sont aussi un peu des adultes fragiles, enfin, ils sont plus adultes puisqu'ils sont, ils sont vieux. Bref, donc, ces personnes adultes et, à risque sont celles qui sont porteuses de maladies chroniques. Et parmi eux, il y a une population particulière qui est celle des immunodéprimés. Alors, les maladies chroniques qui donnent lieu à des vaccinations particulières, eh bien, ce sont les maladies respiratoires, cardiovasculaires, neurologiques, rénales, etc., sans immunodépression. Et ça concerne essentiellement deux vaccins, qui sont le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le pneumocoque. Et on estime qu'il y a à peu près 11,7% de la population adulte qui relève d'une vaccination contre le pneumocoque. Et puis, il y a les fragiles immunodéprimés. Et là, ça concerne pratiquement tous les vaccins du calendrier vaccinal, mais de manière différente, selon le type d'immunodépression et suivant le degré et le type d'immunodépression. Voilà, donc pour... qui est concerné par cette problématique. Deuxième sujet, deuxième point, qu'est-ce qu'on sait des maladies à prévention vaccinale dans ces populations ? Est-ce que ces maladies, on les voit ? Est-ce qu'elles posent un problème de santé publique ? Alors, d'abord, quand on regarde les adolescents, bah, les adolescents, ils sont en bonne santé. Hein, et que si on regarde la diphtérie, la polio, on ne les voit pas. Hein, le tétanos, il y a eu quelques cas de tétanos chez des enfants non vaccinés, mais ce n'était pas des adolescents. La coqueluche elle fait pas l'objet d'une surveillance spécifique chez les adolescents, mais ce que l'on sait, c'est que les adolescents interviennent de manière marginale pour la contamination des petits nourrissons. Alors, il reste deux vrais problèmes qui sont l'hépatite B et l'HPV, mais là encore, ce ne sont pas des maladies qui se révèlent à l'adolescence. Donc, à l'adolescence, on ne voit pas les conséquences de l'infection à HPV et on voit pas les hépatites B, elles surviennent essentiellement chez l'adulte jeune et pas l'adolescent. Donc, finalement, chez les adolescents, ces maladies, ben, on ne les voit pas. Okay ? Pour ce qui concerne les adultes fragiles, là, on ne les voit pas parce qu'on n'a pas de données épidémiologiques. La diphtérie, ben, il n'y en a pas vraiment chez les adultes. Il y a quelques cas de diphtérie cutanée à Corynebacterium ulcérans, mais ça concerne plutôt des personnes âgées. De même que les cas de tétanos que l'on observe, eh bien, ce sont essentiellement des femmes âgées. Et donc, pour ce qui concerne le pneumocoque et la grippe, ben moi, je n'ai pas de données sur le fardeau de ces deux infections dans la tranche des adultes à risque. Voilà, donc les données épidémiologiques, finalement, pas trop inquiétantes.
Alors, qu'en est-il des couvertures vaccinales ?
Alors, les couvertures vaccinales chez les adolescents, on les connaît parce qu'il y a des enquêtes en milieu scolaire qui sont faites à l'âge de 15, 11 ans et de 15 ans, tous les 3 ans. Et on sait que pour DTP, à 11 ans, on a des couvertures vaccinales de 90%. La coqueluche, c'est un peu moins, 83%. Le ROR, une dose à 11 ans, c'est 98%. Et à deux doses, c'est 93%. Par contre, donc tout ça, c'est plutôt rassurant. Par contre, l'hépatite B, c'est 45%. À 15 ans, ça baisse, bien sûr. La DTP, c'est 84%. La coqueluche, 70%. L'hépatite B, 43%. ROR, une dose, 97%. C'est pas mal. Mais ROR, deux doses, 90%. C'est pas encore idéal, mais c'est pas si mal
non
plus.
Est-ce que vous pourriez rappeler en fait les taux, le taux de couverture qu'il faudrait avoir pour éradiquer l'infection ?
Pour la rougeole, c'est 95%. Pour éliminer la rougeole, il faut que 95% de la population soit protégée. Alors on sait aussi que par des enquêtes de séroprévalence, une enquête qui date de 2013, que 9% des personnes âgées de 18 à 32 ans n'ont pas d'anticorps contre la rougeole. Donc là, il y a un problème. Alors, et puis, surtout, le problème, c'est la couverture vaccinale HPV, qui est de 26,2% pour une dose à 15 ans et 23,7% pour le schéma complet à 16 ans. Alors, concernant les adultes à risque, le pneumocoque, la couverture vaccinale des adultes qui devraient être vaccinés contre le pneumocoque, elle a été estimée à 20%. La grippe, pour les personnes de moins de 65 ans et à risque, la couverture vaccinale est estimée à 29%. Et puis, concernant les couvertures vaccinales des immunodéprimés, on n'a pas de données, sauf des enquêtes ponctuelles. Voilà, donc, pour ces couvertures vaccinales, chez les enfants et les adolescents, plutôt rassurante, avec quand même le problème de la coqueluche où on n'atteint pas le niveau, avec l'hépatite B où le rattrapage ne se fait pas, et surtout l'HPV pour lequel les couvertures vaccinales sont calamiteuses. Voilà. Alors maintenant, quels sont les enjeux ?
Oui.
Et comment est-ce qu'on peut atteindre ces enjeux ? Pour les adolescents, donc les enjeux, c'est améliorer la couverture vaccinale HPV, le rattrapage hépatite B et la rougeole.
Je crois que les données épidémiologiques sur la rougeole sont rassurantes, puisque j'ai vu que les bulletins épidémiologiques étaient suspendus, enfin, pas mensuellement, qu'on a rattrapé une situation de 2017-2018 qui était un peu sur la mauvaise pente et qu'on a rattrapé.
On a une flambée épidémique on a eu une nouvelle flambée épidémique en 2017-2018 qui est en train de s'arrêter, mais on n'est pas du tout à l'abri d'une nouvelle flambée épidémique. Mmh. Et qu'on aura encore des flambées épidémiques si on n'arrive pas à rattraper le million de personnes essentiellement âgées de plus de 15 ans qui sont réceptives à la rougeole. Mmh. Ça, c'est un vrai problème. Et que pour ça, eh bien, on redit que chaque consultation devrait être l'opportunité de vérifier le statut vaccinal et de le mettre à jour. Alors, les consultations qu'ont les adolescents, c'est pas très fréquent, puisqu'encore une fois, ils sont en bonne santé, ils consultent peu. Ils vont éventuellement chercher des certificats médicaux pour d'aptitude. Ceux du sport vont disparaître. Les filles consultent éventuellement pour la contraception. Alors, ça va pas suffire. Ça va pas suffire pour arriver à ce qu'on veut, c'est-à-dire améliorer la couverture vaccinale HPV, faire le rattrapage hépatite B et puis compléter le rattrapage rougeole. Il faudrait qu'il y ait il faudrait d'abord, on pourrait mettre en place des consultations particulières. Et il est demandé, et ça va être répété par la HAS pour les nouvelles recommandations concernant l'HPV, la mise en place d'une consultation santé sexuelle chez l'adolescent. Et au cours de cette consultation, eh bien, on pourrait parler de la contraception, bien sûr, parler de la prévention des maladies sexuellement transmissibles, mais également parler de l'hépatite B et de l'HPV et essayer de rattraper cette vaccination, cette couverture vaccinale qui est calamiteuse. Et puis, il faut, concernant cette vaccination, qu'il y ait un véritable programme de vaccination avec des incitations à se faire vacciner, avec des relances, comme l'ont très bien fait les Anglais. Et puis, il faut vacciner les adolescents là où ils sont, c'est-à-dire en milieu scolaire. Et que tant qu'on n'aura pas fait ça, ce qu'on dit, c'est de la gesticulation. C'est pas on va vacciner les garçons, ok. C'est pas ce qui va augmenter la couverture vaccinale des filles. Ça s'est passé nulle part. Donc si on fait pas autre chose, on n'arrivera pas aux objectifs du plan cancer, hein, c'est-à-dire de 60% de couverture vaccinale, ce qui est encore très inférieur à ce qui est observé dans des pays comme l'Angleterre, comme l'Écosse, comme le Portugal, comme l'Australie, qui ont des couvertures vaccinales de 85%. Voilà, donc ça, c'est les adolescents. Les adultes fragiles, eh bien, pour les adultes fragiles, je suis désolé, mais les outils, ils existent. Le calendrier vaccinal, il liste de manière précise les catégories de personnes pour qui une vaccination contre la grippe ou le pneumocoque est recommandée. Pour la grippe, les personnes qui sont identifiées comme ayant une maladie chronique reçoivent chaque année un bon de l'assurance maladie qui leur permet d'aller se faire vacciner gratuitement.
On développera à la table ronde numéro 4, reviendra dessus.
Alors, bien sûr, il y en a quelques-uns qui passent au travers, ça existe, il y a des gens qui passent au travers, mais maintenant, les médecins et les pharmaciens ont la capacité, la possibilité d'éditer des bons. Donc finalement, il n'y a pas d'obstacle administratif ou réglementaire à ce que ces personnes soient vaccinées. Concernant les immunodéprimés, le Conseil de la Santé publique, le Conseil a émis un guide. Ce guide, il est mis à jour. Il a été mis à jour une fois. Il va être à nouveau mis à jour. Ce guide, il a été élaboré avec le large concours des sociétés savantes qui représentent les spécialités médicales concernées. Et que, ce qui fait que normalement, il ne doit pas y avoir de discordance entre les recommandations officielles et ce que recommandent les sociétés savantes, puis elles ont été impliquées dans les recommandations. Alors, il y a parfois des problèmes de suivi du côté du remboursement, parce qu'il arrive que quelqu'un ait une indication d'être vacciné contre le pneumocoque, etc., mais que l'assurance maladie ne rembourse pas parce que l'assurance maladie ne savait pas que cette personne devait être remboursée, devait être vaccinée. Alors, c'est des choses, on m'a dit que c'était en train de s'arranger et que désormais, dans les maladies chroniques, il y a un certain nombre de médicaments, tous les médicaments qui sont utilisés pour traiter une maladie chronique sont remboursés et que dans ces médicaments, il y a les vaccins. Donc, désormais, ça devrait pouvoir se faire et donc tous les outils existent pour que ces personnes soient vaccinées. Pourquoi est-ce qu'elles ne le sont pas ? On peut s'interroger parce que ces personnes qui ont des maladies chroniques, elles sont dans une filière de soins où les médecins qui ont en charge ces pathologies chroniques devraient leur proposer les vaccinations qui sont recommandées pour leur maladie. Or, beaucoup de médecins ne le savent pas. Beaucoup de médecins ne le proposent pas ou renvoient au médecin traitant. Et le médecin traitant qui sait que tel patient est suivi pour une maladie chronique par tel spécialiste, ben, il n'est pas très enclin à dire « moi, je vais le faire vacciner », parce que très souvent, il pense que la maladie qu'il a, c'est une contre-indication à la vaccination, alors que c'est une indication spécifique. Alors, heureusement, il y a les associations de patients qui se mobilisent en hémato, en rhumato, par exemple, pour réclamer qu'on leur donne les vaccinations qui sont recommandées. C'est quand même un peu dommage que ce soit les associations de patients qui soient obligées de monter au créneau pour pallier aux carences du milieu médical.
Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors ?
Eh bien, il faudrait que, d'abord, qu'il y ait un volet vaccination qui soit systématiquement intégré au suivi des maladies chroniques, et que donc il y ait des fiches de tout ce qui doit être fait pour telle maladie chronique, et que dans ces fiches, il y ait les vaccins, de telle sorte qu'ils soient systématiquement recommandés, et que les médecins généralistes qui suivent également ces patients sachent exactement à quoi s'en tenir, et que les vaccinations, elles sont recommandées et pas contre-indiquées, ce qui très souvent, c'est le problème. Voilà. Donc là, autant du côté des adolescents, la balle est dans le camp des pouvoirs publics, autant pour ce qui concerne les personnes à risque, la balle est dans le camp du corps médical. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Daniel Fleuret, d'être intervenu aussi de façon exhaustive sur ces vaccins et la couverture vaccinale et les patients ou les sujets qui relèvent de ces vaccinations. Je voudrais passer la parole à Monsieur Boris Danilovitch. Vous êtes directeur exécutif de MSD France et vous vouliez intervenir justement sur la couverture vaccinale concernant l'HPV, notamment chez les adolescents. Ce que vient d'évoquer Monsieur Fleuret, c'est qu'elle est calamiteuse.
Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. C'est comme évoqué par professeur Fleuret, je crois que là, on a deux populations qui sont vraiment le défi le plus important pour la politique vaccinale en France aujourd'hui. Beaucoup d'efforts ont été faits sur la vaccination de nourrissons, notamment avec obligation de vaccination pédiatrique. Nous avons vu le taux de vaccination s'améliorer, la confiance aussi est revenue. En revanche, les adolescents et l'adulte fragile restent les populations, en tout cas pour certains vaccins, certainement pas suffisamment protégés, alors que la pathologie et le risque de pathologie derrière est réel. Chez les adolescents, on le voit plus tard, effectivement, dans la vie, ces maladies apparaître, comme les cancers liés à HPV ou les complications liées à hépatite B, et chez l'adulte fragile, plus rapidement, évidemment. Je pense aussi qu'on a, on partage ce défi avec beaucoup d'autres pays voisins ou européens, et on peut s'inspirer aussi de leur expérience et des initiatives qu'ils ont mises en place pour améliorer les taux de couverture, la confiance et vraiment.
Monsieur Fleuret parlait de l'Australie. Est-ce que vous avez connaissance de ce qui a été mis en place ou non?
Oui, bien sûr. En Australie, déjà, c'est une approche, par exemple, sur le papillomavirus, vaccination systématique qui a lieu déjà à l'école, donc une couverture très large, vaccination aussi très soutenue par les pouvoirs publics et aussi vaccination universelle depuis maintenant quelques années des filles et des garçons fait que ce pays est probablement le premier qui va pouvoir espérer éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici une dizaine d'années, en tout cas selon les simulations. Bon, en tout cas, moi, en termes de pistes de réflexion, on peut les débattre après ensemble. Moi, je vois deux domaines principaux sur lesquels on devrait concentrer nos efforts. Le premier, c'est le domaine de l'information, sensibilisation de grand public, de populations concernées, des parents, des adolescents et des adolescents eux-mêmes. Et puis, évidemment, la facilitation des parcours vaccinal, qui reste quand même complexe en France. Et puis, deuxièmement, sur le professionnel de santé, qui est l'évier principal dans la vaccination, qu'il soit le médecin, pharmacien d'officine, infirmier, formation, information, ainsi que l'incitation à la vaccination. Donc, par exemple, sur le volet de parcours vaccinal, on voit par exemple chez le nourrisson qu'on a vraiment des visites chez le pédiatre qui sont bien programmées, régulières, donc la vaccination est bien faite. Dès qu'on arrive dans l'âge adolescent, on a des visites qui ne sont pas régulières, elles sont en bonne santé la plupart. Et puis, moi, ça devient vraiment opportuniste. Et puis sur l'information, on a un problème quand même en France d'hésitation vaccinale qui est assez répandu, notamment sur certains vaccins, notamment le grippe et HPV. Ce sont deux vaccins où les réticences sont plus élevées. Et donc les doutes sur l'efficacité du vaccin, la perception de non-gravité des maladies ou encore la peur des effets indésirables font partie des problématiques et phénomènes d'hésitation vaccinale. Donc au niveau des pistes sur lesquelles on devrait réfléchir, c'est sur le parcours vaccinal, évidemment ça a été évoqué, pour les adolescents, l'école comme le lieu de vaccination. Pourquoi pas cabinet de médecins aussi. Il y a des expérimentations qui vont venir et on verra l'impact et l'adhésion à ce type de vaccination, notamment dans nos situations où on a parents hésitants. D'avoir le vaccin en cabinet peut aider à surmonter quelque part, laisser au moins de temps de réflexion, hésitation encore aux parents. Et puis aussi un travail, pourquoi pas, avec les examens médicaux qui sont aujourd'hui inscrits dans la loi, de préciser le contenu de ces examens médicaux entre la naissance et 16 ans. Il y a 20 examens médicaux obligatoires dans lesquels on peut inscrire clairement les vaccinations. Puis sur l'information, l'adolescent, c'est intéressant parce que l'adolescent consomme les contenus différemment aujourd'hui, avec les canaux digitaux notamment. Ils sont aussi influencés par, pas forcément par les autorités de santé et les pouvoirs publics traditionnels, mais plutôt par les influenceurs qu'ils suivent sur YouTube ou d'autres canaux. C'est important qu'on les voit comme des partenaires qui vont diffuser une information médicalement objective, fiable, et pas des désinformations concernant la vaccination. Concernant l'adulte, moi je vois sur le parcours de soins clairement une opportunité, comme c'est le cas avec les grippes, de proposer, d'élargir les compétences vaccinales des pharmaciens d'officine. Pourquoi se limiter aux grippes ? À la grippe, on voit que déjà c'est un grand succès, donc il faut réfléchir comment aller au-delà des grippes et aller vers d'autres vaccins qui sont pertinents, comme le vaccin de rappel, le zona et le pneumocoque par exemple. Et ce qui concerne l'information, aussi de capitaliser sur la campagne grippe, par exemple, qui est très, très renforcée chaque automne, avec tous les acteurs qui se mobilisent pour aller aussi au-delà de la grippe et parler des autres vaccinations que je viens d'évoquer pour sensibiliser cette population. Enfin, sur les professionnels de santé, pour terminer, je crois qu'il y a vraiment important de souligner que nous avons toujours un bon nombre de professionnels de santé qui ont des réticences eux-mêmes par rapport à la vaccination. Selon une enquête qui a été publiée récemment cette année par la Santé publique France, on a un tiers des médecins généralistes qui ont des réticences envers certaines vaccinations, notamment c'est le cas d'HPV. Donc il y a un besoin de formation, information sur l'aspect médical, mais également sur les aspects de communication, c'est-à-dire former les professionnels de santé à comment mieux communiquer avec la population hésitante et leur patientèle pour surmonter ces hésitations. Et enfin, je dirais que c'est important également d'aider les professionnels de santé avec des outils à nos dispositions à mieux mesurer la propre couverture vaccinale. Aujourd'hui, on dispose des moyens avec la caisse, la CNAM notamment, et les données SNIRAM. On peut mesurer le fait sur certains vaccins comme la grippe par exemple, mais on pourrait faire sur tout type de vaccination, avoir une information direct au médecin traitant au niveau de taux de couverture de sa patientèle par rapport à une moyenne nationale par exemple ou des départements pour pouvoir justement s'améliorer. Si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas s'améliorer. Et donc d'aller au-delà de simplement un constat de couverture vaccinale au niveau des départements vers la couverture vaccinale des patientèles des médecins. Et pour ça, on a beaucoup d'outils, dont aussi des éditeurs de logiciels métiers de médecins qui pourront nous aider aller vers cet objectif. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de pistes, certaines qui sont applicables plus ou moins en France, beaucoup qui ont fait preuve de réussite dans les autres pays et qui peuvent nous inspirer à continuer à se battre pour améliorer le taux de vaccination et la santé publique et santé individuelle, surtout de ces deux populations d'adolescentes et d'adultes fragiles.
Merci beaucoup. Avant de passer la parole aux pharmaciens, je voudrais revenir avec vous, Catherine Olivier, pardon, pour évoquer avec vous, on a évoqué donc les patients fragiles. Et parmi les patients fragiles, est-ce que la femme enceinte, évidemment, est concernée ?
Alors, attendez, avant d'aller vers la femme enceinte, moi, je ne peux que valider ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est un pilier fondamental. Et je voudrais insister sur l'idée que dans les vaccinations obligatoires à l'heure actuelle, ça ne concerne qu'une tranche de la population qui n'est pas la population la plus volumineuse dans notre pays. Même si c'est absolument essentiel et que ça a fait la preuve de son efficacité avec des taux de couverture pour tous ces vaccins obligatoires qui ont monté, je crois qu'il faut anticiper sur l'avenir et réfléchir à comment poursuivre avec cette mesure qui était initialement transitoire, mais ça va être du transitoire durable de l'obligation, et comment retourner à des recommandations alors que les autres vaccins qui concernent les autres tranches d'âge sont, eux, recommandés. Mm-hmm. Et donc, il y a à nouveau une disparité dans la perception potentielle du public entre des obligations et puis des recommandations qui ne sont probablement pas perçus comme ayant la même force dans
c'est
la population.
Ça, tout à fait.
Donc ça, c'est un vrai problème et je ne peux que valider la nécessité de connaissances, d'éducation, d'information, de développer nos mesures de communication en allant à l'écoute du public pour savoir un petit peu où il en est et comment nous pouvons progresser avant d'aller tellement plus loin. Si nous n'arrivons pas à résoudre et à créer une situation de confiance après avoir écouté le public, nous aurons beaucoup de mal à progresser. Je rappellerai l'expérience longue de David Salisbury qui a conduit le JCVI, le comité technique de vaccination anglais, où quand on amorce un processus de recommandation d'un vaccin, il y a une étude en profondeur de la population pour savoir ce qu'elle ressent de la maladie, comment elle percevrait le vaccin et comment on peut adapter. Et c'est la raison essentielle pour laquelle leur succès est immédiat, avec dans les mois qui suivent des taux de couverture qui sont spectaculaires et que nous n'avons jamais atteints. Donc je crois que vraiment, il y a de la part des autorités de santé, je me tourne vers Daniel parce que c'est lui qui a la communication peut-être la plus facile avec les autorités, je pense qu'il est rigoureusement indispensable d'appuyer cette démarche-là. Ensuite, vous avez parlé femmes enceintes. Moi, je voudrais parler femmes enceintes parce que dans beaucoup de pays, on commence à considérer que la femme enceinte n'est pas un adulte vulnérable et fragile. Je pense qu'il y a des femmes ici, vous avez vécu des grossesses, ça peut être plus ou moins facile au plan obstétrical, mais il n'en reste pas moins que le système humain fonctionne et qu'il est efficace. Il y a plusieurs démarches concernant la coqueluche et la grippe, avec une efficacité qui s'est avérée remarquable, parce qu'on connaît mieux les processus de transfert des anticorps via le placenta. On sait que quand on administre un vaccin dans le deuxième trimestre ou le troisième trimestre, il y a un bénéfice réel, parfois pour la maman en particulier en ce qui concerne la grippe, où la grippe est d'autant plus sévère qu'on avance dans la grossesse, mais beaucoup aussi pour le nourrisson qui va bénéficier pendant quelques semaines, en moyenne 12 à 16, de la vaccination qui aura été faite à la maman. Les Anglais ont parfaitement démontré qu'ils ont résolu le problème de la petite enfance et du petit nourrisson et des formes graves de coqueluche, et c'est dans cette population des nourrissons de moins de 3 mois que l'on meurt en Corée de coqueluche. Donc je crois que vraiment il faut progresser dans nos connaissances. Et puis le troisième aspect, vous évoquez adultes fragiles. Alors moi je préfère parler de vieillissement parce que je connais des vieux à 20 ans, puis je connais des jeunes à 80. Et donc on est dans un processus de vieillissement. Et je crois que le souci que nos autorités de santé doivent avoir, c'est comment arriver à conserver cette population vieillissante en bonne santé. Et donc j'ai été sur les données de l'INSEE qui sont remarquables pour vous dire simplement que la population française globale est passée de 1946 de 40 millions à 2018 65 millions. En revanche, les naissances vivantes sont passées, elles, de 845 000 pratiquement à 720 000. Il y a eu un petit pic dans l'année 2010 et je vous passe sur toutes les années, vous pouvez les trouver sur le site. Plus inquiétant aussi, le taux de natalité pour 1000 habitants. Il était de 20,9 en 1946. Il est descendu à l'heure actuelle à 11,1 en 2018. La décroissance est régulière et continue. Nous avons donc un solde naturel de population qui décroît. Et dans les données qui me paraissent importantes à avoir, la population des 65 ans a été multipliée pratiquement par deux. La population des 75 ans et plus est, elle, clairement multipliée par deux. Quant à la population des 0-19 ans, il y a eu une perte de plus d'un quart, si l'on considère la population générale, et de presque 10% en nombre absolu. Ce qui veut bien dire que pour maintenir une population générale en bonne santé, ce qui est quand même un objectif premier des autorités de santé, il est impératif de s'occuper de façon urgente des adultes fragiles qui ont des maladies chroniques que tu as bien définies, mais aussi de cette population vieillissante qui va véhiculer un certain nombre de maladies et qu'il faut impérativement protéger pour, d'une part, protéger la capacité de santé et le maintien de l'ensemble des capacités. On sait que quand un adulte vieillissant fait une maladie, son potentiel de récupération sera un peu moindre et prendra plus de temps. Donc pour éviter d'aller dans la dépendance, il est indispensable que l'on ait une politique de santé qui soit axée sur nos populations vieillissantes. Donc l'attitude générale de notre pays en matière de politique de santé devrait être une attitude proactive et non pas une attitude réactive.
Je vous remercie mille fois. Nous développerons en fait l'aspect de la vaccination des populations vieillissantes avec M. Gavazzi à la table ronde numéro 4. Mais déjà, ça nous donne une bonne indication sur la population qui devrait bénéficier de la vaccination. Je vais passer maintenant la parole donc au pharmacien, à M. Gilles Bonnefond. Donc vous êtes président de l'USPO et vous vouliez intervenir. La vaccination est entrée officiellement donc sur le plan national, vaccination antigrippale, qu'on évoquera à la table ronde numéro 4, mais vous vouliez intervenir de façon plus générale sur les missions du pharmacien en matière de santé publique et oui, de vaccination.
Merci pour votre invitation. D'abord, quand on est sur des stratégies de vaccination où il faut rétablir la confiance, il faut élargir les personnes, enfin ceux qui peuvent vacciner pour simplifier le parcours. Tout concentrer chez le médecin, c'est garantir l'échec, puisque le temps médical devient de plus en plus rare et la motivation des médecins et penser à la vaccination n'est pas forcément la chose la plus simple pour eux dans le temps d'une consultation. D'autant plus qu'on a affaire à des personnes qui sont en bonne santé, des adolescents, et où la consultation n'est pas obligatoire et n'est pas forcément légitime. De toute manière, ils n'ont pas de temps. Donc, il faut rétablir la confiance. On a obtenu dans la loi santé la possibilité pour les pharmaciens d'injecter et de prescrire des vaccins à prescription médicale obligatoire. Puisque une des difficultés, c'est que tous les vaccins européens maintenant sont à prescription médicale obligatoire. Donc si on n'avait pas eu cette autorisation, on était complètement piégé pour continuer à développer une stratégie en commun avec les autres professionnels de santé. L'autre point qui est important, c'est que le calendrier vaccinal est devenu beaucoup plus simple. On est sur de l'âge. Alors qu'avant, c'était un petit peu plus compliqué pour arriver à cadrer l'ensemble des renouvellements. Et puis, il y a quelque chose qui est difficile en France, c'est qu'il faut arriver à inciter les patients à se vacciner. Donc, c'est-à-dire qu'il faut recruter. Alors, on peut recruter en milieu scolaire, c'est un lieu, effectivement, où des messages peuvent passer, mais on peut recruter également à la pharmacie, parce que la fréquentation des pharmacies n'est pas négligeable. Et les ados viennent aussi à la pharmacie, que ce soit la famille. En plus, on peut avoir des outils avec des logiciels qui peuvent nous donner des alertes sur l'âge du patient, s'il a été vacciné, s'il a déjà eu une injection ou pas une injection. Et puis, quand on regarde ce qui s'est passé pour la vaccination contre la grippe, bon, c'était un acte qui était nouveau en pharmacie. Est-ce que les patients ont perçu cet acte comme étant anachronique dans une pharmacie? Au contraire, ils ont trouvé ça beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Il n'y a pas eu de la part des patients une espèce de réticence, mais est-ce que c'est le pharmacien est habilité à faire ça? Est-ce qu'il est capable de faire ça, malgré les bruits de fond qu'on a pu entendre? Moi, je suis dans une région où c'est la troisième année où on vaccine contre la grippe. Ben, on a toujours de nouveaux patients, mais les patients qui sont vaccinés chez nous viennent régulièrement, maintenant, depuis 3 ans, se faire vacciner en pharmacie et trouvent ça bien évidemment plus simple. Et d'ailleurs, les médecins, parfois, nous disent « tant mieux, parce que moi, j'y arrive plus ». Donc, il n'y a plus de débat là-dessus. Donc, après, sur l'adolescent, ben, nous, ce qu'on propose, bien évidemment, on attend les recommandations de l'HAS sur est-ce que le pharmacien peut apporter un élément supplémentaire de lieu de vaccination pour relever les défis de l'HPV, de l'hépatite, sur cette population qui est particulièrement difficile à capter, quel que soit son lieu. Donc, c'est, nous, on dit, ça, on peut être un complément de lieu de vaccination, de lieu de recrutement, de lieu d'incitation, de lieu de rétablir la confiance sur cette stratégie vaccinale qui est parfois un petit peu difficile. Donc, nous, sur l'HPV, sur l'hépatite, sur la rougeole, bien évidemment, on peut être un élément supplémentaire dans cette stratégie. Donc nous, on est prêts. La généralisation de la vaccination contre la grippe a montré que ça marchait bien, que les pharmacies étaient équipées, que plus de 75%, 80% des pharmacies déjà proposaient la vaccination, qu'il n'y a pas eu de dérapage, qu'il n'y a pas eu de dérive. Voilà, maintenant, l'HAS, je sais, travaille sur cette stratégie. Nous, on est ouverts aux propositions. Et c'est vrai qu'à partir de 15 ans, ça peut être intéressant, puisque c'est là où on a un énorme déficit sur certains vaccins. Voilà ce que je voulais dire sur cette stratégie. Complémentarité et bien sûr, partage de l'information avec les autres professionnels de santé. C'est-à-dire que la messagerie sécurisée nous permet d'avertir le médecin que ce patient a été vacciné, et puis l'enregistrement dans le dossier médical partagé avec un temps d'enregistrement qui doit être plus long comme on l'a dans le dossier pharmaceutique pour avoir un historique de la vaccination est absolument indispensable pour pouvoir faire des relances ciblées sur les patients qui sont passés à travers.
Je vous remercie beaucoup. Est-ce que M. Floret voulait réagir? Vous voulez réagir sur en fait la généralisation en fait de la vaccination sur l'ensemble des vaccins à l'officine?
Alors, je peux parler qu'à titre personnel, puisque, comme vous le dites, la HAS va travailler là-dessus et que je ne peux pas dire quelles seront les recommandations du CTV. À titre personnel, depuis des années, je dis que je plaide pour que les pharmaciens puissent vacciner dans l'officine. Je crois que c'est la première fois, c'était à l'Académie de pharmacie, il doit y avoir 5 ou 6 ans, où j'avais fait un exposé sur la vaccination par les pharmaciens. Donc, je n'ai pas changé d'avis. Alors, je ne suis pas sûr que ça puisse concerner tous les vaccins. Il faudra... encore une fois, je parle pour moi, je ne parle pas pour la HAS, mais il me semble que les rappels, ça ne pose pas de problème. Maintenant, l'enfant sûrement pas, le jeune enfant sûrement pas, parce que le nourrisson, il est dans un circuit, la vaccination se fait dans un circuit de surveillance, de la croissance, etc. Ok. Les rappels de l'adolescent sûrement, et puis la rougeole, etc. L'HPV, pourquoi pas? Je sais qu'au Portugal, les pharmaciens vaccinent, font l'HPV. Voilà. Enfin, ça va être à discuter vaccin par vaccin, mais enfin, en tout cas, pour ce qui est du problème de principe, pour ma part, je suis absolument convaincu que les pharmaciens, ce sont des professionnels de santé qu'on a considéré comme étant des commerçants. Ce sont des professionnels de santé et je suis ravi que, notamment par le biais de la vaccination, on rétablisse le pharmacien dans son rôle de professionnel de santé et dans son rôle dans la santé publique.
Est-ce que vous permettez, les professionnels de santé autorisés à vacciner, nous n'avons pas parlé des infirmières ni des sages-femmes. Il y a des possibilités pour ces deux corps de métier qu'il ne faut pas oublier. Car ce qui me frappe, c'est que les infirmières, habituellement, sont relativement peu vaccinées contre la grippe. Elles le sont moins que des médecins, ce qui veut dire que dans ce corps de métier, il y a du travail à faire et de l'information à donner aussi. Mais je pense que tous les professionnels de santé doivent participer à nos stratégies de vaccination habituelles. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'âge auquel on peut éduquer un enfant à la vaccination. J'ai le souvenir d'une de mes filles qui, revenant du groupe préparatoire, était arrivée dans une campagne de anti-tabac avec un signe interdit à la maison. Je trouvais que c'était bien. Elle avait adhéré au message. Je crois que le même genre de message donné à un adolescent ne sera pas porteur. Ce qui va être porteur pour l'adolescent, c'est les jeux vidéo, les clips. Et je crois beaucoup à des jeux vidéo, plus que des pubs standards. Je crois aussi que des champions, musiciens, sportifs, devraient intervenir quand ils sont favorables à la vaccination pour être porteurs des messages. Je crois que les mesures éducatives sont plus faciles chez des enfants de 9 à 11, 12 ans. Parce qu'ils ont la capacité de réfléchir, de comprendre beaucoup de choses, et c'est un âge relativement stable avant les mouvements de l'adolescence.
Donc on a vu les pistes donc d'évolution de la communication pour la vaccination. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde. Monsieur Gilles Bonnefond, vous voulez ajouter quelque chose?
Juste une remarque par rapport à ce qu'a dit le professeur Floré. Bien évidemment, on n'est pas du tout concerné sur les jeunes enfants. On était sur l'adolescent. Donc savoir si 15 ans, ça peut être intéressant parce qu'on a un gros déficit sur l'HPV. Il n'est pas question d'aller sur le jeune enfant. Par contre, bien évidemment, sur le patient chronique, où là, on a un accompagnement, un suivi à travers la convention avec l'assurance maladie. Là, il peut y avoir certainement une clarification du message, comme vous l'avez dit, sur certains types de patients qui ne savent pas si le vaccin est utile ou au contraire est contre-indiqué. C'est quand même dramatique. Donc là, il y a tout un travail d'information à faire passer. Et à travers la convention avec l'assurance maladie, les pharmaciens, mais également en interprofessionnalité, dans le cadre des CPTS, des communautés professionnelles de territoires de santé, où la stratégie de prévention fait partie des axes de développement des territoires, où là, il peut y avoir complémentarité, parce que la vaccination, on ne la gagnera que si on joue la complémentarité avec les autres professionnels et éventuellement d'autres milieux, comme le milieu scolaire, qui est un lieu à privilégier, bien évidemment, et éventuellement les facultés.
Monsieur Assatiani, vous voulez dire un mot?
Oui, je voulais dire simplement que l'adolescence, ça me paraît quand même un peu jeune pour la pharmacie, que je suis tout à fait d'accord pour les adultes, mais l'adolescent a besoin d'être encore d'être vu par le médecin. Quand un adolescent vient pour un certificat de sport, c'est le moment de faire une visite complète, c'est le moment de regarder son carnet de vaccination. Et quand il vient pour une vaccination, il ne faut pas croire qu'on fait le vaccin et qu'il s'en va dans la minute qui suit. C'est une consultation auquel on évalue la croissance, le déficit sensoriel, la puberté, la scoliose, la recherche de scoliose et des choses comme ça. Donc la consultation me semble importante jusqu'à l'adolescence comprise. Il faut essayer de la maintenir et plus tard, effectivement, chez les adultes, la vaccination par le pharmacien, j'ai rien contre.
Donc nous allons conclure cette réunion. Merci beaucoup. Les vaccins sont un geste individuel et collectif et nous l'avons bien compris à cette table ronde. Merci mille fois et je vais passer la parole donc à Michel qui va donc animer la troisième table ronde sur obligation vaccinale. Où en sommes-nous en France et dans les autres pays européens? Voilà, merci à tous.